Révolution médicale.
Annie Carel Bélan.
René Friedman. Aujourd'hui, nous allons parler de l'épigénétique au-dessus de la génétique. L'épigénétique, et pour comprendre cela, Annick Harel-Bélan est avec nous et je vais présenter une carrière scientifique, d'abord centrée sur l'immunologie, toutes les études de cette spécialité dont je vous rappelle qu'un certain nombre d'émissions ont été réalisées dans le cadre de Révolution médicale. Donc je vous renvoie, pour ceux qui sont passionnés par ces interactions entre l'individu, le soi, et puis l'étranger au sens moléculaire ou au sens des cellules qui peuvent arriver, la protection que l'on a vis-à-vis de l'environnement. Et justement, nous allons pas mal parler de l'environnement. Docteur et sciences, Annie Carel-Bélan, vous êtes directeur de recherche essentiellement au CNRS, mais vous êtes aussi dans les organismes de liaison entre l'INSERM et le CNRS. Vous avez obtenu de nombreux prix, dont tout dernièrement le prix de l'Académie de médecine de Henri et Marie-Jeanne Mitageville. Et vous avez été conseillère du directeur de l'INSERM et vous avez participé à de nombreux comités scientifiques. Donc vous êtes une scientifique de l'épigénétique, vous avez 150 publications, dont certaines de haut niveau dans la revue Nature et ses variantes. Et je suis donc très heureux de vous recevoir pour commenter ce mot, l'épigénèse, qu'Aristote avait découvert il y a 350 ans avant Jésus-Christ. Donc, épi, au-dessus. Genèse, c'est la génération, donc quelque chose qui est au-dessus de la génération, de la génétique. Et peut-être on va reprendre pour nos auditeurs justement la génétique pour voir ce que l'épigénétique n'est pas. Alors, parlez-nous tout d'abord de ce moine, Gregory Mendel, qui joue avec des petits pois et qui va définir les lois de la génétique.
Il jouait avec des petits pois et du maïs.
Et du maïs.
Et qui a effectivement découvert que certains caractères étaient transmis d'une certaine manière, donc on appelle mendélienne, si on sort du maïs et qu'on va un peu chez l'homme, par le père et la mère. C'est-à-dire qu'on récupère des caractères de notre père et de notre mère.
Donc lui, il insiste sur, il démontre la filiation de certains caractères.
Voilà. Ça s'était fait à partir du maïs, et puis évidemment ça s'est étendu à tout le vivant, certaines parties du vivant. Alors la génétique, qu'est-ce que c'est ? C'est finalement, on a une molécule dans chacune de nos cellules, enfin des molécules en fait, qui est l'ADN. Et l'ADN est fait de 4 briques, et la séquence de ces 4 briques porte une information. Mais disons que c'est ATGC. Et il y a donc une séquence de ces briques. Et cette séquence, elle est transcrite en ARN, donc c'est la même séquence à peu de choses près, le T remplacé par un U, mais bon, grosso modo, c'est la même chose. Donc la même séquence est transcrite, donc ça se passe dans le noyau de la cellule. Et puis ensuite, ça passe à l'extérieur du noyau et ça va être traduit en protéines.
Oui, parce que le but, c'est de fabriquer des protéines.
Voilà. Le but, c'est de fabriquer les protéines qui sont un petit peu, on va dire, les ouvriers de la cellule, c'est-à-dire qui font tout ce que la cellule doit faire. Donc les protéines, ce sont des enzymes qui vont catalyser des réactions qui vont faire que la cellule va pouvoir utiliser de l'énergie, etc., et jusqu'à se reproduire et jusqu'à transcrire son matériel génétique, puisque ce sont des enzymes qui transcrivent le matériel génétique. Donc ces protéines, en fait, ce sont donc les ouvriers de la cellule. Dans la génétique moderne, chaque gène code pour une protéine. Voilà, donc ça, c'est la génétique. Mais en fait, on sait depuis très longtemps qu'avec un même matériel génétique, on peut avoir ce qu'on appelle des phénotypes, c'est-à-dire des apparences, des caractères différents.
Par exemple, des cellules du foie et des cellules de la peau
ont
le génotype, mais ont des phénotypes d'expression totalement différents.
Et or, ces cellules proviennent de la même cellule, qui est la cellule originale. Une seule cellule va donner toutes ces cellules complètement différentes. Toutes ces cellules ont exactement le même matériel génétique, des apparences totalement différentes, des fonctions totalement différentes. Elles n'expriment pas du tout les mêmes gènes. Elles n'ont pas les mêmes protéines.
Alors, avec la découverte de cet ADN et de cette formation en double hélice qui a valu le fameux prix Nobel, on a cru que tout était génétique et que c'est de ce codage, de cette transmission de que les choses se développaient.
Voilà, si on prend les choses dans l'ordre historique, donc ce problème du développement embryonnaire et du fait qu'une cellule originale donnait beaucoup de cellules avec un même matériel génétique et des phénotypes différents a occupé beaucoup les biologistes au début du XXe siècle, disons, dans les premières décennies du XXe siècle. Et il y a un monsieur qui s'appelle Conrad Waddington qui, dans la fin des années 30, début des années 40, a proposé un modèle qui était plutôt un modèle, en fait, conceptuel, dans lequel...
C'est un généticien anglais. Oui. Et il est en 42.
Il s'intéresse au développement.
Voilà.
Il s'intéresse au développement.
Dans une situation un peu complexe.
Voilà.
De l'environnement.
Voilà.
Il s'intéresse à ça, justement.
Il s'intéresse au développement. Donc, il propose un modèle un peu conceptuel dans lequel on a donc une cellule originale qui est au sommet d'une colline. Et de cette colline partent des rigoles, donc plusieurs rigoles qui se découpent. Donc, une rigole en donne deux, puis en donne trois, un petit peu comme des ruisseaux, on va dire. Et toutes ces rigoles arrivent sur la vallée, en bas, à des points différents, évidemment. Donc, la cellule originale a toutes les possibilités. Elle peut passer par tous les chemins. Et puis, au fur et à mesure qu'elle descend, elle va se trouver un peu canalisée vers des rigoles particulières. Donc à chaque point où elle descend, elle perd de la capacité de ce qu'on appelle, au départ, elle est totipotente, et ensuite elle est pluripotente, et puis de moins en moins pluripotente. Et lorsqu'elle arrive complètement
en bas... Elle se spécialise, quoi.
Voilà, elle se spécialise, et lorsqu'elle arrive complètement en bas, eh bien, elle est complètement spécialisée. C'est une cellule du foie, c'est une cellule de l'intestin, c'est une cellule spécialisée. Voilà, donc ce modèle, il avait appelé ça le paysage épigénétique. Donc quelque chose qui modifiait finalement la génétique et qui restreignait les possibilités de la cellule de plus en plus jusqu'à ce qu'elle soit complètement spécialisée. Ensuite est arrivée la révolution de la génétique. Finalement, ce problème n'a pas été résolu, ce problème, à ce moment-là. Mm-hmm. C'est resté un modèle un peu conceptuel. Ensuite est arrivée la révolution de la génétique. Effectivement, on a découvert la structure de l'ADN, on a découvert ce qui portait l'information génétique, on a découvert l'ARN, lui évidemment les prix Nobel, et du coup tout est devenu génétique, mais rien hors de la génétique.
Donc la base c'était l'information, le codage est dans le noyau, c'est l'ADN, on a un messager qui va transporter l'information en sortant du noyau pour aller
faire fabriquer des protéines.
Les protéines. Donc on a cette séquence ADN, ARN, messager et protéines. Voilà, ça c'est la base classique. Voilà. Et puis là-dessus, on va commencer à être un peu plus complexe.
Et là-dessus reste le mystère. Le mystère reste entier. Je vais dire, les cellules du corps d'un animal, quel qu'il soit, du corps humain, sont spécialisées, elles ont le même matériel génétique, mais elles n'ont pas le même phénotype. Alors, elles ont des protéines en commun, évidemment. Il y a des fonctions qui sont communes à toutes les cellules. Donc, celles-là, elles sont présentes dans toutes les cellules. Mais il y a des protéines qui sont spéciales à chaque tissu. Donc, avec le même matériel génétique, ces cellules ont un phénotype différent.
Et Lamarck, lui le premier, va commencer à dire peut-être qu'il y a une hérédité
des caractères acquis.
Des caractères acquis.
Voilà, donc
déjà,
ça
c'est l'influence de l'environnement, et on va y revenir tout à l'heure bien sûr, savoir est-ce que le stress, est-ce que la nutrition, est-ce que tel ou tel phénomène environnemental va influencer non seulement moi-même, mais peut-être la descendance.
Donc ça, on en reparlera.
Mais alors, donc, vous étiez en train de dire, Annie Karen Bellon, que la génétique n'explique pas tout, finalement.
Voilà, la génétique ne pouvait pas expliquer tout, même à l'époque, on le savait.
Vous avez un bel exemple qui est celui des abeilles.
Alors, les abeilles, ça c'est un exemple très intéressant, parce qu'en plus, il explique aussi un certain nombre de choses. Chez les abeilles, il y a une reine et puis des ouvrières. Et la reine n'a pas du tout le même phénotype que les ouvrières. C'est-à-dire la reine est beaucoup plus grosse.
Elle a une activité différente.
Elle a aussi une tête un peu différente, des ailes différentes. Enfin, elle est différente. Phénotype différent. Et pourtant, ouvrière et la reine proviennent de la même larve. C'est-à-dire de larves identiques. Hmm. Donc elles ont le même matériel génétique, mais là encore des phénotypes différents. Donc, et les exemples, il y en a énormément.
Et alors comment on l'explique là?
Alors comment est-ce qu'on l'explique? Alors en fait, tout vient d'un problème finalement qui est purement mécanique, qui est que le matériel génétique, donc si on prend une cellule humaine par exemple, hein, l'homme, le matériel génétique, l'ADN, correspond à peu près 2 mètres, 2 mètres d'ADN. On a 2 mètres de séquences ATGC dans chacune de nos cellules.
Mais moi, là, c'est le mécanisme, bien sûr, mais je posais la question, comment se fait-il qu'on a une reine et des ouvrières?
Là, c'est vraiment l'influence de l'environnement, effectivement, puisque la reine n'est pas nourrie de la même manière que les ouvrières. C'est-à-dire que la reine reçoit la gelée royale, que tout le monde connaît, et c'est parce qu'elle mange cette gelée royale qu'elle est différente.
Et pourquoi une va manger la gelée royale et pas les autres? Pour bien remonter.
Ah, pourquoi est-ce qu'on choisit cette larve-là pour manger la gelée royale? Ça.
Qui choisit d'ailleurs?
Ouais, je suis même pas sûr que quelqu'un choisisse. Hein. Je pense que c'est peut-être un peu au hasard. Mais là, je suis pas une spécialiste des abeilles, donc je pourrais pas répondre à cette question.
Mais par contre, il y a d'autres exemples humains, en particulier qui ont été étudiés, c'est les jumeaux.
Oui. Alors, il y a des jumeaux qui sont différents, en fait. Donc, ce sont des vrais jumeaux, ils ont le même matériel génétique.
Oui, donc, précisons, hein, il y a les faux jumeaux et les vrais jumeaux.
Oui.
Les vrais jumeaux, ils proviennent du même œuf, donc du même patrimoine génétique.
Voilà.
Les faux jumeaux, ce sont
deux œufs
différents qui ont été fécondés différemment donc, et qui sont qui coexistent, on va dire.
Oui.
Hein. Voilà. Donc on n'est pas du tout dans la même chose. Là, on parle des jumeaux
vrais.
Des monozygotes, c'est-à-dire qui proviennent du même matériel génétique. Or, on s'aperçoit que dans certains cas,
ils n'ont pas le même phénotype,
ils n'ont pas, pas les mêmes maladies.
Voilà, donc un des jumeaux peut être atteint d'une maladie épigénétique, en quelque sorte, qui fait que, par exemple, il est, donc ça c'est le syndrome de
Beckwith-Wiedemann, il y en a un qui est très gros.
Voilà, il y en a un qui est atteint de gigantisme et l'autre qui est tout à fait normal.
Tout à fait. Et puis une autre situation qu'on a connue il y a peu de temps, c'est quand on a commencé le clonage. Donc là, on s'est dit, on prend un noyau, on va le transporter, on va avoir un animal tout à fait identique. Et on s'aperçoit qu'avec le même noyau, le pelage, par exemple, des chats, hein, ça a été surtout ça qui a été révélé, montre qu'on peut avoir un pelage différent.
Exactement.
Donc on rentre vraiment, c'est pour bien faire comprendre, quoi, en dehors du fait que de la même cellule souche, il y a des cellules qui sont différentes, on a des phénomènes comme ça qu'on observe et qu'on découvre de plus en plus.
Des individus peuvent être différents avec le même matériel génétique.
Alors, voilà, donc la question, maintenant je vous la pose, Annie Carrel-Bellan, comment une telle différence avec un même matériel génétique est-elle possible?
Voilà. Donc c'est donc un problème qui est purement mécanique finalement, qui est que donc si on prend une cellule humaine, la cellule humaine a 2 mètres à peu près d'ADN. Donc chacune de nos cellules, nous avons à peu près 2 mètres
d'ADN. Donc c'est extrêmement ramassé.
Donc voilà, on peut pas faire rentrer. Donc la cellule, tout ça est dans le noyau de la cellule. Hein,
en plus.
Hein, parce qu'on a des cellules de taille différente.
Voilà.
Mais tout ça est dans le noyau de la cellule et ce noyau fait 10 millionièmes de mètres de diamètre. Donc on a 2 mètres d'ADN dans un noyau qui fait 10 millionièmes de mètres de diamètre. Donc on comprend tout de suite qu'il faut faire quelque chose pour condenser, compacter cet ADN, sinon ça ne rentrera pas. Et c'est ce qui se passe. Donc l'ADN est en fait compacté. Donc il est compacté sous forme de ce qu'on appelle la chromatine. Donc qu'est-ce que c'est que la chromatine? Eh bien c'est des protéines. Donc ce sont des petites protéines, pas très grandes. Et il y en a 4, pour être simple, hein, parce qu'il y a plein de variants, mais disons qu'il y en a 4. On a 2 exemplaires de chaque. Et ces protéines forment une espèce de petite bobine, si vous voulez, autour duquel on enroule 2 tours d'ADN. Chacune de ces petites bobines de protéines avec ces 2 tours d'ADN forme ce qu'on appelle un nucléosome. Et donc l'ADN, c'est une chaîne de nucléosomes. Cette chaîne de nucléosomes peut se replier sur elle-même, puis cette forme repliée va se replier encore, puis replier encore, puis replier encore, etc. Jusqu'à ce qu'on arrive à la forme qui est la plus compactée, qui est le chromosome. Le chromosome, on ne le voit que pendant la division de la cellule, au moment de la mitose, au moment où une cellule va donner 2 cellules. À ce moment-là, l'ADN se condense au maximum, il est vraiment complètement condensé, et on les voit au microscope, les chromosomes. Donc ça, c'est la forme la plus condensée. Mais en dehors de la division cellulaire, dans le noyau, l'ADN est plus ou moins compacté aussi. Donc il y a des zones très compactées, c'est ce qu'on appelle l'hétérochromatine, et des zones moins compactées,
plus distendues,
qu'on appelle le chromatine. Donc là, cette forme compactée, c'est purement mécanique, c'est facile de comprendre que plus l'ADN est compacté, forme une ces pelotes complètement condensées, moins on peut atteindre l'ADN qui est dedans. Or, pour transcrire, c'est-à-dire pour fabriquer l'ARN
et les protéines
qui va ensuite donner la protéine, il faut que les enzymes, qui sont donc des protéines, puissent atteindre l'ADN. Sinon, il ne peut pas y avoir de transcription. Donc, en fait, plus l'ADN est compacté, moins
plus
il y a
caché,
d'activité sur
Ouais.
le gène.
Ouais.
Et l'hétérochromatine très condensée, c'est une partie qui est inactive du génome, alors que le chromatine moins condensé, c'est la partie active. Qu'est-ce qui régule la compaction de l'ADN ?
Bien sûr.
Parce que donc, finalement, tout est dans la compaction. Quand l'ADN est décompacté, le gène peut être traduit, la protéine sera exprimée. Quand l'ADN est complètement condensé, le gène ne peut pas être transcrit et la protéine ne peut pas être exprimée. Alors, qu'est-ce qui régule la compaction ? Eh bien, ce sont des modifications chimiques des composants de la chromatine, c'est-à-dire des modifications chimiques de l'ADN et des protéines qui forment cette petite bobine qu'on appelle les histones.
C'est des boules ?
Alors, c'est une espèce de petite boule de protéines autour duquel s'enroule l'ADN et elles peuvent être modifiées chimiquement, ces histones et l'ADN.
Donc là on est dans le profond.
Voilà,
bien sûr,
là, on est dans le mécanisme moléculaire.
De comprendre, ensuite, on va venir sur les choses qui sont visibles, effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, des jumeaux différents, l'expression différente de cellules. Mais il faut qu'on comprenne le mécanisme. Ouais. C'est pas facile pour nos auditeurs, mais vous y allez pas à pas, et c'est très important de vous suivre, Annick Carrel-Bellan.
Ces modifications chimiques, il en existe énormément. On parle même de codes épigénétiques. Elles portent une information puisqu'elles vont régler la compaction locale de l'ADN. Donc les histones peuvent être méthylées, acétylées, ubiquitinylées, phosphorylées. Donc plusieurs modifications chimiques à énormément d'endroits différents. En fait, tout ça se passe sur des petits bouts des histones. On a donc cette espèce de bobine un peu serrée d'histones et puis on a des bouts qui dépassent. Et sur ces bouts qui dépassent, on a ces modifications.
Donc là, on voit qu'on est, on est dans le domaine de la chimie. Hein.
Ah, c'est de la chimie.
France Culture, Révolution Médicale, René Friedman.
Donc nous sommes sur l'épigénétique, et pour qu'on comprenne bien donc cette action de la chimie au sein même de ce qui est la chromatine, les chromosomes et les bases qui vont constituer donc cette DNA, cette ADN plutôt, comme on dit en français. On est en train de parler des histones, qui est pas très bien connu, hein, c'est ces billes dans lesquelles s'entourent les brins d'ADN. Et puis aussi, en termes de chimie, c'est la méthylation.
Voilà, alors l'autre composant de la chromatine, qui est donc l'ADN lui-même, peut être aussi modifié, c'est la méthylation.
Alors qu'est-ce que c'est que la méthylation ?
C'est juste l'addition d'un petit groupement CH3. Donc, voilà.
On est dans la chimie.
C'est la chimie, hein, c'est de la chimie complètement pure. Et donc, certaines modifications chimiques sont associées à la chromatine compactée et d'autres modifications sont associées à la chromatine décompactée. Alors notamment en ce qui concerne l'ADN, la méthylation de l'ADN est associée, bon, de manière très schématique, est associée à la chromatine compactée, c'est-à-dire inactive. Lorsque l'ADN est méthylé, le gène n'est pas exprimé. Lorsqu'il est déméthylé, le gène est exprimé.
Donc on voit qu'en jouant... c'est un peu schématique, mais quand même, on peut comprendre que... Donc s'il y a des réactions chimiques qui se réalisent sur la périphérie, là, autour de la méthylation, on va avoir des expressions, des non-expressions variantes.
Donc, les combinaisons de ces modifications sur les histones et sur l'ADN vont finalement faire que localement, à cet endroit-là, sur ce gène précis... La chromatine va être soit compactée, soit décompactée. Et vont finalement faire que le gène peut être exprimé ou non. C'est pour ça que d'une certaine manière, c'est au-dessus de la génétique, puisque ça contrôle la génétique.
Oui, donc on peut reprendre cette définition que l'épigénétique, c'est l'étude des changements d'expression des
voilà,
gènes.
Exactement.
Qui n'implique pas de changement de la base génétique.
Voilà, de séquence. C'est-à-dire que la séquence est la même, mais le gène est exprimé ou non.
Et alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi quelque chose qui est stable, mais qui peut être réversible.
Oui, tout à fait. La plupart, alors certaines sont plus facilement réversibles que d'autres, mais ces modifications sont dans l'ensemble réversibles.
Et lorsque nous parlons de cette épigénétique, on se rend compte que, par exemple, il peut y avoir des inactivations du chromosome X qui peuvent être en rapport avec le fait que j'avais lu que un pourcentage de jumelles, donc 20% des jumelles, avaient des situations différentes quant à la méthylation de l'X.
Alors en fait, oui, donc ça c'est ce qu'on appelle, c'est tous les phénomènes de ce qu'on appelle l'empreinte. Alors notamment le plus classique, c'est effectivement l'inactivation du chromosome X. Donc vous savez que les cellules masculines sont XY, les cellules féminines sont XX. Et dans cette situation, il y a plusieurs possibilités. Soit on double l'expression du X pour avoir la même expression des gènes correspondants, soit on double l'expression du X masculin, soit on inactive un des X féminins, et c'est ce qui se passe chez l'homme.
Donc, il faut qu'il y ait donc une cellule avec un...
Voilà, un des chromosomes est totalement inactivé par des phénomènes épigénétiques. Donc par les phénomènes dont je viens de parler, c'est-à-dire c'est la condensation de la chromatine avec ses modifications chimiques.
Et l'équilibre mâle-femelle.
Voilà, ça, hein. Voilà, tout le monde est au même niveau. Les femmes, en fait, sont des mosaïques, puisque le chromosome X s'inactive un peu au hasard, donc un des deux s'inactive dans toutes les cellules, mais ça n'est pas nécessairement le même. Donc les femmes sont des mosaïques, elles ont... Moitié de cellules avec un des X inactivé, moitié de cellules avec l'autre.
Est-ce que on a une évolution de cette différence épigénétique en fonction de l'âge? C'est-à-dire, j'avais cru voir que, par exemple, sur les études de jumeaux, on s'apercevait qu'il y avait, plus on avançait en âge, plus il y avait une différence qui se constituait.
Oui, alors là, on touche tout de suite à un problème qui est l'influence de l'environnement sur l'épigénome. Donc ces modifications, si vous voulez, maintenant on sait les regarder au niveau génomique, c'est-à-dire on sait les analyser sur tous les endroits du génome, c'est-à-dire sur les 2 mètres d'ADN, on sait dire, voilà, dans cette cellule-là, il y a telle et telle modification à tel endroit. On a des méthodes extrêmement puissantes pour faire ça, et c'est ce qu'on appelle l'épigénome. Donc on a le génome qui est la séquence, et l'épigénome qui est un peu la carte des modifications. Et l'extérieur, le monde extérieur, en fait, influe sur l'épigénome. Donc l'épigénome va varier en fonction des conditions extérieures.
Mais quand on dit, il y en a qui voudraient connaître leur génome en entier, maintenant que c'est devenu accessible financièrement, encore que, en fait, c'est génome plus épigénome qu'il faudrait avoir.
Absolument, parce que le génome...
la caractéristique précise.
Exactement. Il faudra avoir l'épigénome... alors, à un instant T, mais bon, l'épigénome varie aussi.
Oui, parce qu'il peut varier dans le temps, justement. Et la question, c'était, est-ce que avec l'âge, donc avec le temps, il peut y avoir des variations?
Absolument, absolument. Et qui sont probables, enfin, qui sont au moins en partie dues à l'environnement, à l'influence de l'environnement.
Donc, c'est une... Il y a un autre mécanisme qui est plus labile et qui est soumis à l'influence de l'environnement. C'est pour ça qu'on en arrive... à se poser des questions, effectivement, quels sont les effets épigénétiques de facteurs aussi caractérisés comme le stress, comme la nutrition. On va y venir dans quelques instants. Qu'est-ce qui vous a conduit à travailler sur l'épigénétique?
Alors, moi, je travaillais sur l'expression des gènes, donc sur la transcription, donc cette étape qui consiste à lire l'information génétique sur l'ADN pour fabriquer l'ARN. Qui va ensuite passer dans le noyau et être traduit en protéines. Et puis, en fait, j'ai eu l'occasion de faire de l'enseignement. Et dans l'enseignement en niveau licence, je crois. Et donc, j'ai dû faire une très, très grosse bibliographie pour préparer mon module. Mmh. Et au cours de cette bibliographie, j'ai découvert un article sur les histones. Et sur l'acétylation des histones, donc une de ces modifications qui était dans cet article impliquées dans l'expression d'un gène. Et donc je me suis dit, mais moi qui travaille sur l'expression des gènes, ça peut peut-être tout à fait m'intéresser. Enfin, dans mon modèle à moi, ça peut être intéressant de regarder l'acétylation des histones et le rôle de cette modification. Et c'est comme ça que j'ai démarré dans l'épigénétique.
Est-ce que vous pensez que les équipes françaises sont assez bien investies? Vous avez formé un certain nombre d'élèves qui sont devenus des grands.
Mais je suis très très loin d'être la seule.
Donc.
Il y a une très grosse force en épigénétique en France. Hein. Il y a d'excellents laboratoires, notamment sur l'épigénétique, l'empreinte. Sur l'épigénétique et la réparation de l'ADN, par exemple. Sur l'épigénétique. Il y a vraiment de très, très, des laboratoires de pointe en France sur l'épigénétique.
Et alors, dites-moi, on pense qu'au cours du développement embryonnaire, il y a un effacement des marqueurs épigénétiques à un moment donné?
Alors là, c'est la question de la transmission. Mais là... Donc, vous parliez de stress, vous parliez de nutrition. Il y a beaucoup d'expériences qui ont été faites, notamment chez la souris, évidemment, c'est plus facile, sur la transmission, sur deux choses. D'abord, sur est-ce que le stress, par exemple, si on prend le stress comme effet environnemental, peut influer sur l'épigénome, premièrement. Et deuxième question, est-ce que ça peut se transmettre à la descendance?
On va peut-être aborder cette question dans la deuxième partie de l'émission. Mais là, c'était juste d'éclairer sur le fait qu'il y a effectivement une disparition momentanée
oui.
au cours du développement embryonnaire dans les premiers jours.
Voilà. Alors, chez la souris comme chez l'homme, il y a au stade blastocyste, donc c'est un stade très important puisque ça va être l'apparition des cellules souches embryonnaires qui vont donner l'embryon.
On est au cinquième, sixième jour du développement embryonnaire.
Il y a un effacement total, enfin, ou quasi total, hein, rien n'est jamais total, évidemment, des marques épigénétiques de ces modifications, notamment de l'ADN, c'est-à-dire de la méthylation de l'ADN.
Et donc après,
donc,
une reconstruction.
Tout, et on recommence.
On efface tout, on recommence.
Voilà. Et donc ensuite, ces marques sont à nouveau déposées.
Alors vous savez que cette histoire me fait toujours penser à un écrit qui est dans l'Ancien Testament, où on dit que finalement les fœtus in utero, dans le ventre de leur mère, connaissent par cœur déjà toute la Torah, hein, toute la Bible, mais que ça va s'effacer, et que pour s'effacer, justement, ils mettent à un moment donné le doigt sur en haut de la lèvre, là, sur le en dessous du nez et la lèvre, ouais. Et c'est la marque du doigt.
C'est pour ça qu'il y a
cette petite dépression, parce que c'est l'effacement de la connaissance pour qu'elle se recrée, parce qu'il faut être volontaire pour l'apprendre. Bon, évidemment, c'est la Bible, mais c'est intéressant sur le plan scientifique ce que vous dites au sens de l'effacement donc des marques épigénétiques et de la reconstruction, ce que nous allons aborder dans la deuxième partie.
Thank you.
Révolution médicale, nous sommes avec Annick Harel-Bellan autour de l'épigénétique, c'est-à-dire au-dessus de la génétique, et nous essayons de comprendre ces mécanismes intimes passionnants de la formation du vivant. Et Glenn Gould, ici entendu, nous détaille note par note ce qui peut être base par base la constitution de l'ADN, le fameux ADN, dont nous avons vu que cela ne suffit pas pour comprendre le mécanisme de la transmission, puisqu'il y a non seulement la génétique donc avec ses bases, mais aussi les modifications qui vont intervenir sur le plan chimique, hein, sur deux éléments que sont l'histone et la méthylation, donc on est vraiment au niveau chimique, et qui vont faire que il y a des expressions différentes des gènes, comme le démontrent certaines choses dans la nature. En particulier, par exemple, il y a une expérience assez fascinante qui a été faite par Kerry Ressler et Brian Diaz à Atlanta, avec des souris, en mettant un stress électrique et puis une odeur particulière. Il crée bien sûr la panique, hein, parce qu'à chaque fois qu'il y a cette odeur, il y a le stress. Donc ils intègrent bien la corrélation. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'à la deuxième et la troisième génération, rien qu'à l'odeur, les souris vont, ou le rat, va réagir de la même façon que s'il recevait la décharge électrique. Donc évidemment, on se pose la question, mais est-ce que l'on peut transmettre son épigénome? Et de là, bien sûr, on va très loin, parce qu'on peut se poser la question, qu'est-ce qu'on peut transmettre sur le plan presque psychologique? Donc, comment vous interprétez ce genre d'expérience?
Il y a deux interprétations, je pense, hein. Alors, il y a donc ce problème qu'on évoquait tout à l'heure du fait que ces marques épigénétiques sont complètement effacées au cours du développement. Donc, matériellement, moléculairement, il est difficile de comprendre comment elles peuvent être transmises puisqu'elles sont effacées. Alors, ce genre d'expérience, on peut l'interpréter de deux manières. Soit effectivement, il y a une transmission physique, matérielle, par un mécanisme qu'on ne comprend pas, mais qui peut être éventuellement quelque chose qu'on n'a pas regardé, un paramètre qu'on n'a pas regardé. Et là, on pourrait parler du génome non codant, mais on en parlera peut-être tout à l'heure, oui. Parce que ça, c'est quand même un aspect très important des choses. Soit on peut aussi les interpréter autrement, qui est que la mère qui a été stressée va traiter peut-être son sourisseau d'une manière telle que le sourisseau sera amené à, lorsqu'il entend le son, en quelque sorte dressé par sa mère à réagir, et il va lui-même ensuite dresser ses enfants de la même manière. Et pour tous ces problèmes de stress, que ça soit chez l'homme ou que ça soit chez l'animal, il est difficile, à mon avis, mais je ne suis pas un spécialiste de ce genre de choses, mais il est difficile finalement de démêler ce qui est vraiment physique, moléculaire, et ce qui est finalement de l'ordre du comportement.
Mais par exemple, dans l'histoire de la nutrition,
oui,
on insiste beaucoup actuellement sur le rôle de la nutrition pendant la gestation et les conséquences,
oui,
que ça peut avoir.
Oui.
Alors, bien sûr, par exemple, il y a eu des expériences du fait de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait des zones autour de Hambourg ou de Wuppertal en Allemagne, où il y a eu des famines caractérisées. Et on a constaté que les enfants qui naissaient pendant cette période avaient un poids de naissance beaucoup plus faible que les autres. Mais ce qui est étonnant, c'est que, ça encore on peut le comprendre.
Ça, il n'y a aucun problème.
Mais ce qui est étonnant, c'est que ces enfants qui ont des enfants plus tard, enfin ces femmes nés prématurément ou surtout à petit poids, qui vont avoir des enfants, et même la troisième génération, va également avoir un poids de naissance inférieur à la norme. Donc cette espèce de transmission de la conduite, enfin de ce qu'on a vécu comme conséquence chez l'humain par cette expérience de cette famine, je dirais, pose quand même problème.
Non, c'est clair, je pense qu'il y a de nombreuses expériences, hein, de ce type-là, enfin, ou de nombreuses observations, plus exactement, là, il s'agit d'observations de ce type-là.
Et en particulier, il y a aussi en Angleterre, où il y a Mark Hanson qui a conservé des cordons ombilicaux et il a une certaine connaissance de la nourriture que prenaient des femmes pendant leur grossesse. Et il s'est rendu compte que les régimes maternels qui étaient déséquilibrés entraînaient des enfants plus gros que celles qui avaient un régime plutôt équilibré. Et c'est vrai qu'actuellement, chez l'animal, à l'INRA en particulier, on l'a dit plusieurs fois, il y a tout un groupe qui s'est constitué autour de la, d'essayer de comprendre les influences de l'alimentation du tout début par rapport à les conséquences sur le développement de l'enfant et peut-être la survenue de certaines maladies.
Mais ça, je pense qu'il n'y a vraiment aucun problème là-dessus. Hein. C'est-à-dire sur le fait que la nutrition pendant la grossesse puisse influer sur énormément de paramètres du fœtus, concernant le fœtus. Là, je pense qu'il n'y a vraiment aucun problème là-dessus. Et l'exemple, par exemple, des abeilles est très, très clair. Il est extrêmement clair, je veux dire. La nutrition de la larve fait qu'on a un phénotype complètement différent au bout. Et en fait, ces larves, au cours de leur développement, soit vers la reine, soit vers l'ouvrière, ont été analysées maintenant moléculairement au point de vue des modifications de la chromatine. Et on a montré, enfin, les auteurs qui ont fait ce travail ont pu montrer qu'effectivement, c'était lié à la méthylation de l'ADN sur certains gènes. Donc la gelée royale avait influencé l'épigénome, ou influence l'épigénome plutôt, de ces larves.
Alors c'est pour ça qu'on conseille de manger de la gelée royale voilà. Pour devenir reine.
Pour devenir roi et reine.
Mais plus précisément, est-ce que vous pensez que la psychogénéalogie, c'est-à-dire est-ce qu'on peut souffrir des tragédies vécues par des ancêtres?
Alors moi je pense bien sûr qu'on peut souffrir des tragédies, ça c'est clair je pense. Maintenant la question est-ce que l'on souffre parce que ça nous a été transmis de manière épigénomique on va dire, ou est-ce que c'est que nos parents nous ont mis dans de telles dispositions d'esprit psychologique?
Oui, c'est
qu'on en souffre. Voilà, c'est tout un ensemble.
Qui est transmis, une transmission connue. Voilà. C'est difficile, effectivement, de ne pas avoir entendu ou ressenti un certain nombre de traumatismes vécus par la génération d'avant.
Voilà. Donc, c'est difficile de différencier les deux. Le fait que ça soit l'un ou l'autre, il y a un effet sur l'épigénome, ça, c'est très probable. Par contre, c'est même sûr, pour moi.
Mais... Oui, parce qu'on assiste aussi, comme toujours, hein, à des sectes ou à des façons de penser. Si vous avez mal au dos, c'est parce que un de vos ancêtres a reçu une lance dans un combat moyenâgeux, enfin bon, etc. Donc on peut bien sûr dériver, mais là on ne dérive pas, on est véritablement sur la science, on est véritablement sur cette espèce de découverte, hein, de la possibilité d'un changement d'expression des gènes qui, eux, ne changent pas, mais c'est leur expression qui va changer. Alors, il y a une thématique qui m'est chère, comme vous le savez, mais qui pose actuellement un problème, qui est celle de la fécondation in vitro. Parce que nous sommes au tout début, dans un milieu de culture différent qui a été constitué pour permettre à l'embryon de se développer pendant 3, 4, 5 jours. Et dans ce milieu de culture, par exemple, il y a une étude qui a été faite par une équipe de Maastricht qui a montré que, avec deux milieux différents, le poids des enfants qui étaient nés après cette technique, était différent. Pas énorme. Mais selon que l'on regardait, il y avait quand même 200 grammes d'écart. Même chose en Finlande, où il y a une autre étude qui a montré que des embryons qu'on avait laissés 5 jours dans le milieu de culture, ou dans des milieux de culture, par rapport à ceux qui étaient 3 jours, avaient des poids différents, là aussi, 3,4 kg, 3,6 kg. Donc, rien de pathologique, mais des différences. Et ça peut que renforcer le truc. Alors, il y a un problème, et j'en profite pour m'étonner publiquement de cette situation, c'est que le contenu des milieux de culture qui servent à la fécondation in vitro, eh bien, il n'est pas connu. Le différent milieu de culture, c'est un secret industriel, ce qui est, à mon avis, totalement anachronique, alors qu'on met l'accent sur le rôle de l'environnement et les différentes conséquences que cela pourrait avoir à court, moyen ou à long terme. Donc, si on est sensibilisé par tout cet aspect de l'environnement et de l'épigénétique, il n'est pas possible de continuer à avoir un espèce de blackout, je dirais, sur la constitution, la composition de ces milieux qui vont présider quand même à 20 000 enfants nés en France chaque année. Dans le monde, on en est à plusieurs millions. Donc, les conditions du début, on le voit bien du début de ce que nous sommes devenus, sont importantes en termes de lumière, en termes de composition de l'air, composition, bien sûr, du milieu. Donc là, c'est un point quand même, j'en profite pour dire que c'est une situation qui doit changer, et peut-être d'ailleurs, ça a été posé au Parlement européen, et je pense que les choses vont évoluer. En tout cas, il y a des réticences, vous avez bien compris, qui sont préjudiciables, parce que là, il s'agit quand même de l'homme, de l'humain, on va dire. Alors, vous abordiez tout à l'heure le problème du génome non codant.
Oui.
Alors, effectivement, il y a un truc qui est quand même inimaginable, c'est que il n'y a que 3% du génome qui ont une information codante.
Exactement, chez l'homme.
Chez l'homme.
Chez l'homme, il y a 3%. En fait, donc, ces gènes qui portent l'information pour fabriquer ces protéines ne correspondent qu'à 3% du génome. 97% de notre génome est non codant.
Alors, est-ce qu'il ne sert à rien ?
Alors, pendant, évidemment, au beau temps de la génétique ou du tout génétique, le génome non codant était appelé junk DNA en anglais pour génome poubelle, quoi. Donc, on se demandait à quoi ça servait, mais enfin, bon, on se disait que ça sert probablement à rien. Et puis, il y a une grosse révolution dans les années 1990, qui a été la découverte des petits ARN non codants. Alors, jusqu'à présent, il y avait deux catégories d'ARN. Il y avait les ARN messagers, très nobles, qui portaient l'information, mais qui eux-mêmes ne contrôlaient rien. Hein. Ils se sont
contentés.
Voilà, c'était juste des messagers. Et puis, des ARN de structure. Beaucoup.
Alors, quelle est la différence entre ARN et ADN ?
Alors, la différence entre ARN et ADN, la composition des bases. Dans l'ADN, c'est ATGC, et dans l'ARN, c'est AUGC. Le T est remplacé par le U, donc c'est une petite différence chimique. L'autre différence, c'est que l'ADN est double brin, donc les deux brins étant complémentaires. Donc ça, c'est simplement pour qu'ils puissent être répliqués facilement, hein. C'est-à-dire qu'on réplique chaque brin et crac, on en a deux pareils, alors que l'ARN est monobrin. Voilà. Enfin, l'ADN est dans le noyau, et l'ARN messager circule.
Passe du noyau au cytoplasme. Là où sont les usines de fabrication des protéines.
Voilà. Mais alors, ces usines de fabrication des protéines, justement, et beaucoup d'autres usines dans la cellule, sont faites avec des enzymes, donc les fameuses protéines, mais ce sont en fait des complexes ribonucléoprotéiques, c'est-à-dire qu'il y a aussi de l'ARN dedans. Et ce sont des ARN dits de structure. Voilà.
Donc, c'est plus des messagers, c'est-à-dire que leur rôle n'est pas de
n'est pas de porter l'information,
mais il est d'intervenir.
D'intervenir.
Et donc, ils ont peut-être un rôle plus important qu'on ne le pensait.
Alors non, ceux-là, on connaît leur rôle, ils représentent aussi une petite proportion du génome, et ils participent effectivement à l'épissage, enfin différents phénomènes qui se passent dans la fabrication de la protéine. Mais, donc jusque-là, on n'avait pas d'ARN qui ont un rôle noble, entre guillemets, qui contrôle. Et là, tout à coup, il s'est avéré, à la suite de découvertes, alors là, je voudrais vraiment insister là-dessus, c'est vraiment très important, de découvertes qui ont été faites chez un petit ver qui s'appelle C. elegans. Donc c'est un ver qui n'a strictement aucun intérêt, ni économique, ni médical, ni quoi que ce soit. Il a juste l'avantage qu'il est transparent et donc on peut regarder le devenir de chaque cellule. Il a peu de cellules, donc on peut regarder le devenir de chaque cellule au cours du développement. Donc il est beaucoup utilisé pour les études sur le développement.
Mais c'est un ver de terre, simplement.
C'est un tout petit ver, c'est microscopique.
Ah, c'est microscopique, d'accord.
Enfin, microscopique, très petit. Et donc, c'est ces chercheurs qui travaillaient sur ce ver C. elegans. Il y a eu deux études en même temps, pratiquement en même temps. Un faisait un crible génétique, alors purement génétique, il cherchait des gènes. Hein, pour chercher les gènes qui contrôlent le timing du développement. C'est-à-dire comment le ver va passer de larve 1 à larve 2 à larve 3. Donc, aucun intérêt médical, aucun intérêt économique. Et en faisant ce crible, il a sorti une molécule d'ARN qui jouait un rôle important, changeait le timing du développement, en contrôlant une protéine, en inhibant une autre protéine qui, par parenthèse, une protéine qui s'appelle LIN28 et qui est une protéine de l'état de souchitude. Et donc, elle fait partie des cocktails qu'on peut injecter à des cellules complètement différenciées pour les faire revenir à l'état de cellules souches. Donc c'est une protéine quand même importante qu'il a sortie dans ce krill. Et il a sorti cet ARN non codant, aucun ce qu'on appelle cadre de lecture, c'est-à-dire possibilité de coder pour une protéine, et qui inhibait cette protéine ligne 28. Il a donc, il s'est dit, bon, je vais chercher quelque chose de complémentaire à l'ARN de ligne 28, pour quelque chose qui va. Et il a sorti une toute petite séquence d'une vingtaine de nucléotides qui, effectivement, étaient complémentaires à l'ARN de ligne 28. Et cette petite séquence d'une vingtaine suffisait pour contrôler l'expression de ce gène ligne 28.
Donc là, c'est le rôle de petits ARN.
Petits ARN. Hein,
qui vaut d'ailleurs le prix Nobel. Hein, 2006.
Alors, lui n'a pas eu, Victor Ambros, qui a fait cette découverte des micro-ARN, n'a pas eu le prix Nobel.
Oui.
Là, c'est les micro-ARN naturels. Par contre, Andrew Fire et Craig Mello ont eu le prix Nobel pour, eux, mettre en évidence, toujours chez le vert, c'est élégance, et eux aussi travaillaient sur le développement, pour avoir mis en évidence le phénomène qu'ils ont appelé d'ARN interférence, qui était le fait que lorsqu'on injecte, pour faire très simple, un grand ARN double brin dans le vert, c'est élégance, donc ça veut dire qu'on a l'ARN messager, si vous voulez, et puis un ARN complémentaire. Donc on a fait un double brin à partir de l'ARN messager.
Ça s'est fabriqué.
Qu'on fait fabriquer au vert. Ce grand ARN double brin est capable d'inhiber l'expression du gène correspondant. Et comment il fait ça? Eh bien, il est découpé en petits ARN d'une vingtaine de nucléotides. Et ce sont ces petits ARN qui vont inhiber l'expression du gène. Et cette inhibition se passe au niveau de la traduction. C'est-à-dire au moment où l'ARN messager est traduit en protéine. Voilà, alors ça a totalement révolutionné. D'autant plus qu'il s'est avéré que ce phénomène d'ARN interférence n'était pas du tout restreint au vert et élégance. Donc ce petit vert qui n'a aucun intérêt, mais est en fait universel. Il est présent absolument dans tous les organismes, sauf la levure de bière, Saccharomyces cerevisiae. Mais par contre, il est totalement présent chez l'homme.
Et comment ça se fait qu'on ne l'avait pas découvert, on ne l'avait pas identifié matériellement?
D'abord, penser que des petits bouts de choses qui ne codent pour rien pouvaient avoir un rôle très important à la grande époque de la génétique, ça serait venu à l'esprit de personne, je pense. Hein. Donc c'est des produits de dégradation, voilà, ça n'intéresse pas, quoi. C'est des choses qui n'intéressent pas. Donc moi je trouve que cette découverte est vraiment très importante. Alors, d'une part parce qu'elle a ouvert la voie sur le génome non codant, et d'autre part, parce qu'elle a été faite chez C. elegans, donc dans un modèle qui n'intéresse personne, donc c'était des recherches qui n'auraient pas été soutenues dans un monde où on ne soutient que la recherche à but appliqué, et qui pourtant a un retentissement énorme, puisque donc ces petits ARN existent au naturel chez l'homme, et ils jouent un rôle dans énormément de pathologies, et notamment le cancer. Donc maintenant, ce sont des marqueurs du cancer, marqueurs de certains cancers. Et en plus, donc on peut les moduler. Et en plus, au moyen de ces petits ARN interférents artificiels, on peut en fabriquer artificiellement et les introduire dans l'organisme et inhiber le gène qu'on veut au moment où on veut.
Donc on se rend compte que de cette génétique non codante, enfin cette partie du génome qui n'est pas codant, il a une action qui voilà. Peut être inhibitrice et donc contraire, et qui donc parce que vous avez parlé là des petits ARN, mais oui. Il y a aussi des longs ARN.
Maintenant voilà.
Maintenant, donc on découvre les longs après les petits.
Voilà, les petits ont ouvert la voie aux longs. Alors on savait depuis longtemps que des longs ARN existaient, hein, non codants, quelques-uns. Notamment, par exemple, dans l'empreinte parentale sur le X, il y a des ARN, on savait, qui jouent un rôle. Il y a un ARN qui couvre le chromosome X inactivé. Donc on savait que ces ARN existaient. Mais on ne savait pas l'étendue de la chose. Et en fait, ce sont des technologies modernes qui permettent maintenant vraiment de détecter des molécules d'ARN qui sont très peu représentés. Donc c'est ce qu'on appelle le séquençage à haut débit. Donc ça permet de séquencer le génome, mais ça permet aussi de séquencer l'ARN. Et donc on détecte des molécules qui sont très peu représentées. Et là, en utilisant ces technologies, on s'est rendu compte qu'en fait, la quasi-totalité du génome est transcrite. La quasi-totalité du génome, la quasi-totalité de l'ADN donne lieu à la fabrication d'un ARN. Alors cet ARN, donc, dans 97% des cas, est non codant. Mais il joue un rôle.
Oui, parce que voilà. Souvent on a traduit non codant inactif, voilà. Égal inactif.
Hein. Pas du tout. Et on se rend compte maintenant, et c'est vraiment une explosion à l'heure actuelle, que ces ARN non codants jouent un rôle dans l'expression des gènes, notamment.
Mais et donc justement, ils joueraient un rôle donc dans ce qu'on a discuté pendant voilà. 50 minutes.
Exactement.
C'est-à-dire l'épigénétique.
Voilà, exactement. C'est-à-dire que peut-être que cette transmission épigénétique pourrait se faire via ces ARN non codants qu'on n'a pas encore regardé et qui sont eux présents dans le noyau ou dans le cytoplasme dans la cellule, même si tout l'ADN est déméthylé à un moment donné, si toutes les marques sont enlevées, ces ARN sont peut-être présents pour dicter les nouvelles méthylations.
Donc si je comprends bien Annie Carrel-Belland, nous avons donc une espèce de trio de l'épigénétique, hein. Ça repose sur trois éléments qui sont, vous l'avez dit, ce sont les histones, hein, qui sont les boules entourées par les brins d'ADN sur lesquels n'insistait peut-être pas suffisamment. La méthylation qui va aussi donc jouer sur l'expression de l'ADN. Et puis ces ARN non codants, petits ou grands, peut-être encore d'autres, qui sont, comme vous le dites, en pleine évolution, révolution peut-être de connaissances pour les années à venir. Et c'est vrai que le modèle des jumeaux, moi, je le trouve assez fascinant, hein, quand même, parce qu'il y a en même temps, les jumeaux monozygotes qui ont été, parce qu'il y a des expériences où des situations plutôt où les jumeaux monozygotes ont été élevés différemment, hein, bien que monozygotes. Alors, ils ont une différence qui est quand même faible, finalement. Elle n'est pas très très grande. Ce qui voudrait dire que quand même l'environnement peut-être intervient modérément, mais par contre, l'épigénèse, elle, peut intervenir.
Ah oui, oui, totalement.
Parce qu'il y a trois éléments, génétique, épigénétique et environnement.
Environnement, hein, qui influe sur l'épigénèse.
Il y a trois facteurs qui interviennent comme ça. Voilà, qui est passionnant et qui montre que les études et le travail de recherche en biologie est tout à fait ouvert, passionnant. Et vous avez, Annie Carrel-Belland, milité il y a quelques années à Sauvons la recherche.
Non.
Si, vous avez écrit, si, parce que je l'ai. J'ai votre signature, 2003 dans le Monde. Vous avez écrit pour justement insister sur le fait que il n'y avait pas assez de chercheurs en biologie.
Ah oui, ça par contre, oui. Ça tout à fait, c'est tout à fait.
Oui,
tout
oui.
À fait. Disons que oui, je milite beaucoup pour la biologie.
Voilà.
Plus pour que Sauvons la recherche. Je n'ai jamais fait partie de Sauvons la recherche. Il y a certaines choses avec lesquelles je suis d'accord, d'autres
c'est
avec lesquelles je ne suis pas d'accord.
Mais c'est
donc,
peut-être
voilà,
l'idée.
Pas le mouvement, l'idée par contre.
Voilà,
oui, voilà pas le mouvement, l'idée.
Il faut sauver la recherche, qu'il n'y a pas assez de personnes en biologie, pas assez de capacités d'accueil. Or pourtant, nous sommes sur l'origine du vivant et nous avons besoin.
Alors, non seulement nous sommes sur l'origine du vivant et nous en avons besoin d'un point de vue médical, mais il est tout aussi finalement passionnant de comprendre comment fonctionne le vivant que de comprendre comment les étoiles ou les planètes réagissent entre elles. Et c'est vrai que je trouve un petit peu dommage que finalement le public se passionne plus pour les étoiles que pour ses propres cellules. Et je le regrette, voilà. Donc c'est probablement notre faute aussi. Hein.
Mais grâce à cette émission de France Culture, les choses ont changé, bien entendu, puisque on vous a entendu, Annie Carrel-Belland, on a, je pense, perçu qu'il y avait quelque chose à regarder de près. Et c'est vrai qu'actuellement, on est dans tous les infinis, l'infini de l'espace, l'infini du début de l'homme. Et tout ça est absolument passionnant. Donc merci de votre venue.
Merci de m'avoir accueilli.
Cette émission de René Friedman a été préparée avec la collaboration de Catherine Donnet, réalisée par Dany Journeau et Jean-Michel Bernot à la prise de son. Et il y a parmi les trois au moins un ou deux ARN non codants, mais très important, comme vous l'avez signalé. Vous pouvez nous laisser vos commentaires sur le site internet de Révolution Médicale, podcaster cette émission durant un an et la réécouter pendant 1000 jours sur le site internet de France Culture sur www.franceculture.fr.